plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Être porteur de trisomie 21, c'est une façon d'être au monde, pas une maladie, comme le rappelle souvent l'une de nos invitées du jour. Être porteur de trisomie 21, c'est avoir un petit truc en plus. Mais malgré ce petit plus, ce n'est pas toujours facile de vivre avec un chromosome supplémentaire. Pas facile parce qu'on est différent et que la société n'est pas vraiment inclusive. Pas facile parce que l'on communique avec d'autres codes. Pas facile non plus parce que l'on interroge les représentations et les normes. Alors celles et ceux qui les entourent et les autres aussi sont parfois désarçonnés, perturbés, interloqués, bref, ils ne savent pas forcément quoi dire, quoi faire, ni quoi penser. Et c'est pour simplifier la vie des personnes avec trisomie 21 et celle de leurs proches que la Fédération Trisomie 21 France a coordonné la publication d'un livre « 100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 et casser les idées reçues ». 100 idées d'un coup d'un seul, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bienvenue donc dans Au plus près de la recherche, une émission qui vous est présentée, je vous le rappelle, en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Et aujourd'hui, autour des micros, deux femmes tout d'abord, Bernadette Céleste, psychologue, membre du Conseil scientifique de la Fédération Trisomie 21 France, et Marie-Joëlle Beauclair, personne concernée, puisque nous allons parler de trisomie 21 beaucoup dans cette émission. Et puis deux hommes, Yves Jeanne, qui est enseignant chercheur, maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2 et Marc Blin, directeur du CESAD Trisomie 21 des Yvelines et formateur à l'INSHEA. Je vais vous le dire une fois en entier ce que c'est INSHEA, c'est un peu long, on ne le répétera pas après. Écoutez bien, c'est l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Voilà, INSHEA, c'est plus court, retenez celui-là. Merci et bonjour à tous, merci d'être là.
Bonjour.
On est là réunis autour d'un livre, je le disais en introduction, « 100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 et casser les idées reçues ». Un livre édité par Tom Pouce en partenariat donc avec Trisomie 21 France. Un livre pour simplifier la vie des personnes touchées par la trisomie 21, un livre pour rassurer, pour découvrir, pour un peu tout ça. Pourquoi ce livre ? Peut-être pour commencer, vous Bernadette qui avez un peu dirigé, l'équipe qui a dirigé cet ouvrage,
oui.
Coordonner le tout en tout cas.
Coordonner 100 idées, ce n'est pas toujours facile. Et puis c'est un livre qui a été effectivement une réponse à une interrogation d'une maman. Une maman qui venait d'avoir un enfant avec trisomie 21 et qui me disait devant, je dirais, cet événement qu'elle n'attendait pas, comme beaucoup de mamans aujourd'hui, lorsqu'on leur annonce la trisomie 21 de leur enfant après la naissance, elle me disait « mais je ne sais pas tout ce qu'il va y avoir à faire, je ne sais rien ». Et en fait, cet ouvrage, on a voulu l'écrire justement en essayant d'apporter le regard de la fédération, une fédération qui a déjà quand même une grande existence et une grande expérience avec les personnes avec trisomie 21, en portant donc le regard de la fédération sur le parcours dans la vie des personnes avec trisomie 21, depuis tout ce qui entoure l'annonce du handicap, le suivi des tout jeunes enfants, la scolarité, la vie en société, la formation professionnalisante, la vie affective et sexuelle. Et je crois que tous les thèmes qui nous semblaient importants ont été abordés.
Alors un ouvrage, on l'a vu, coordonné par Trisomie 21 France, mais avec au cœur de cet ouvrage les personnes concernées et des chercheurs, donc toute une équipe qui a permis justement de faire un ouvrage extrêmement complet sur tous les thèmes concernés. Comment ça s'est organisé et avec quel type de professionnels et de personnes concernées? Qui veut peut-être nous parler de cela? Yves, je vous en, ou Bernadette pour commencer?
Alors, l'idée de la fédération, c'était effectivement, au niveau de l'écriture de cet ouvrage, de faire appel à tous ceux qui participent à la fédération d'une façon générale, à savoir des personnes concernées, et Marie-Joëlle est là et nous a décrit, est une des personnes concernées qui a écrit des idées, elle, sur la scolarité, mais d'autres l'ont écrit sur la façon dont ils ont été formés professionnellement, sur leur exercice professionnel, sur leurs soucis par rapport à l'habitat. Des personnes concernées, des parents, des professionnels et des chercheurs. Donc on a cherché effectivement à avoir une écriture qui peut apparaître un petit peu hétérogène dans les écrits, mais qui justement est le reflet un petit peu de cette façon d'être qu'on a à la Fédération et de faire appel à des gens de statut tout à fait différent. Donc Marc est là, effectivement, a beaucoup travaillé sur tout ce qui traite de l'accompagnement précoce.
Oui, de l'accompagnement absolument et de l'annonce, c'est-à-dire ce que Bernadette décrivait, là, l'entrée, l'arrivée dans la vie avec toutes les représentations sociales qui continuent à se balader et qui font que, comme le disait Bernadette, pour les parents qu'on accueille aujourd'hui, alors moi je parle là maintenant de ma position de directeur de service, donc d'accompagnant des familles et des personnes, toutes ces familles qui sont confrontées à quelque chose qu'elles attendaient, j'allais dire, encore moins qu'avant, parce que dans l'espace public et dans l'imaginaire collectif, la trisomie, c'est quelque chose qui se dépiste maintenant. Ce livre permet notamment de faire le point sur ces questions-là en indiquant ce qui est de l'ordre du dépistage, ce qui est de l'ordre du diagnostic, qui sont des choses tout à fait différentes et qui permet peut-être de recaler deux, trois idées, de repréciser deux, trois éléments importants pour l'accueil des personnes et des familles, parce qu'on sait dans la pratique d'accompagnement. Alors pour l'anecdote, hein, pour l'histoire, pour situer Marie-Joëlle, qui a, quel âge tu as, 19 ans ?
19 ans, oui.
Voilà, Marie-Joëlle, elle est accompagnée par notre service depuis qu'elle a 5-6 ans. Donc ça veut dire qu'on partage des parcours un petit peu longs avec les personnes et les familles. Et donc cette arrivée au monde pour les personnes et les familles, il est important de pouvoir l'accompagner au mieux dès le début, pour ensuite que les personnes et les familles puissent véritablement prendre la main, et c'est l'enjeu, hein, prendre la main sur leur parcours de vie. Je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire passer dans ce livre. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que l'ensemble des collaborateurs au bouquin sont cités, mais on ne sait pas qui ils sont. C'est-à-dire qu'il n'est pas précisé que ce sont des professionnels ou des personnes avec trisomie, ou des parents, parce que c'est vraiment cette construction en commun, cette co-construction au fil du parcours qui fait la richesse des parcours de vie précisément. Voilà.
Et puis c'était une façon du coup de vous mettre tous sur pied d'égalité,
bien sûr,
d'être
absolument.
Chacun au cœur de la recherche. Marie-Joëlle, vous avez ressenti ça, d'être un des acteurs importants, au même titre qu'un autre, pour l'écriture de ce livre ?
Oui.
Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot supplémentaire ?
Non,
pas pour l'instant. Alors, je me tourne peut-être vers Yves-Jeanne aussi pour avoir votre avis à vous et votre implication à vous. Comment s'est-elle organisée dans ce livre ?
Voilà, moi j'ai eu une petite contribution. Je suis intéressé à le travail depuis quelques années sur la dimension de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, etc. Et là, je me suis intéressé à la dimension de l'amitié. Mais ce que je voudrais relever dans la suite de ce qui a été dit, c'est que c'est d'une certaine façon une démarche modeste, mais une démarche quand même assez ambitieuse et nouvelle, qui est de considérer que un problème humain ne saurait en aucun cas être l'affaire de quelques spécialistes que ce soit seuls. Les chercheurs trouvent des choses tout à fait intéressantes, mettent en perspective des problématiques. Mais les professionnels ont un savoir qui n'est pas celui des chercheurs et qui n'est certainement pas de moindre valeur. De la même façon que les personnes sont les premières expertes de leur situation. Et que lorsqu'on veut comprendre un problème humain dans toute sa complexité, si on ne prend pas en compte l'un ou l'autre de ces postures d'accueil et d'investigation, alors on va faire de l'expertise sur autrui, ce qui est une crétinerie absolue. Hein? Cette connaissance qu'ont les personnes de leur expérience, je ne l'ai pas. Et plutôt que de les prendre comme des informateurs, c'est-à-dire de très haut, je préfère de loin le partager avec elles, parce que c'est infiniment plus riche. Donc on est, paradoxalement, dans des méthodes de recherche qui sont extrêmement nouvelles et qui sont encore très très innovantes, parce que jusqu'à une période très récente, et c'est encore vrai très souvent, pour les chercheurs, les autres sont leurs informateurs. Et non, ce ne sont pas nos informateurs, ce sont des gens avec lesquels nous devons réellement collaborer et pas seulement coopérer.
mais qui, du coup, de fait, vous informent aussi en vous donnant une part de leur connaissance, de leur savoir expérientiel, comme on dit souvent dans le cadre des maladies et dans le cadre des handicaps. Ça a été pour vous aussi une source, j'imagine, d'informations supplémentaires, d'apport...
Oui, avec l'hypothèse que de cet échange naît quelque chose, en termes de savoir, bien plus intéressant que le résultat de mes analyses à partir de leur information, et que ce que nous créons ensemble, je ne peux pas le créer sans elles, elles ne peuvent pas le créer sans moi. Et c'est parce que nous partageons ça vraiment que nous créons un savoir qui est nouveau et qui serait inaccessible à l'un ou à l'autre isolément.
Marc, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez précédemment. On parle des représentations qu'ont les gens ou qu'ils n'ont pas de la trisomie 21. C'est vrai que c'est un problème génétique qui a été, et qui l'est peut-être moins, vous nous direz, mais assez fréquent. Le syndrome de Séguin-Dohme-Lejeune, comme on l'appelle, mais la trisomie 21, comme les gens en parlent souvent, est à la fois extrêmement connu du grand public. Est-ce que finalement c'est un avantage ou est-ce qu'au contraire ça complique les choses parce qu'il faut, et c'est dans le titre du livre, casser les idées reçues et d'abord déconstruire avant de pouvoir peut-être ramener une information correcte?
Absolument. C'est-à-dire que c'est une connaissance à double tranchant. C'est-à-dire que quand vous interrogez, moi je fais ça beaucoup en formation, hein, qu'il s'agisse des jeunes professionnels, des professionnels aguerris, des parents, des familles qu'on a en formation aussi. Quand on interroge les représentations sur la trisomie, elles sont assez, assez fixées. C'est-à-dire que les personnes ont une idée assez claire de ce que peut être la trisomie. Mais ces idées, elles sont construites à partir d'un certain nombre d'expériences. Vous parliez d'expériences. À partir d'expériences soit intimes, familiales, soit de ce qu'ils ont croisé dans le monde professionnel, soit ce qu'ils ont vu à la télé. Comme des films comme Le Huitième Jour, qui se balade encore toujours. Et finalement, c'est une représentation qui est assez stéréotypique. Et ce que montre l'accompagnement des personnes, c'est que, précisément, c'est l'accompagnement avec les personnes qui va permettre à l'ensemble des acteurs de repenser ces représentations et de réorganiser ces modalités d'être avec. Parce qu'effectivement... On a cette représentation encore, je le redis, très stéréotypique des trisomiques qui sont... je vous dis les mots que j'entends souvent, hein, même chez les tout jeunes, professionnels. Ils sont gentils, ils sont affectueux, ils ont le sens du rythme. Voilà, c'est des choses qui restent très ancrées et qui ne correspondent... Moi, ça fait 20 ans que j'accompagne beaucoup de familles et je peux témoigner du fait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas gentils. Ils ne sont pas affectueux comme
ils
n'importe
qui. Ils n'ont pas le sens du rythme.
Ils n'ont pas le sens du rythme comme tout un tas d'autres enfants. Voilà. Ce qui fait la spécificité des personnes avec trisomie, c'est qu'au lieu de 46 chromosomes, ils ont 47. Pour le reste, ils sont aussi différents les uns des autres que nous sommes, nous, avec 46 chromosomes, différents les uns des autres. Ce qui imprime notre trajectoire, c'est nos expériences de vie, tout simplement.
J'ajouterai quelque chose aux représentations que vient citer Marc, parce que... tout ce qu'il a évoqué sur leur gentillesse, leur goût pour la musique, etc., etc., ce sont les éléments qu'on ajoute après un « mais ». Un « mais » parce que ce qui va être d'abord la représentation, c'est les limites des personnes avec trisomie 21. Alors, ils ont une intelligence limitée, ce qui fait qu'on ne va pas aller au-delà d'eux, on ne va pas essayer de leur apprendre certaines choses, etc. Mais ils sont gentils, affectueux, etc., etc. Et je crois que dans les représentations, il y a justement très très fort cette référence à la limite, et c'est ce qu'à Trisomie 21, on essaye sans arrêt de faire bouger.
Nos limites, sur Vivre FM, on vous retrouve tout de suite après un peu de musique.
Au plus près de la recherche, sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour en plateau, avec toujours à mes côtés, cette fois-ci je commence par les hommes, Marc Blin, Yves Jeanne, et puis ensuite Marie-Joëlle Beauclerc et Bernadette Céleste. On parle de ce livre « Sans idées reçues » pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 et casser les idées reçues. Casser les idées reçues, Bernadette nous le disait à l'instant, pas facile parce que quand on dit trisomie 21, les gens pensent tout de suite à des limites, des limitations, des personnes limitées. C'est pas le cas. Et Marie-Joëlle, vous êtes là pour en témoigner. 19 ans, on disait, vous êtes assez jeune et pourtant vous travaillez déjà bien plus tôt que la plupart des gens soi-disant moins limités. Alors comment, c'est quoi ce travail? Peut-être racontez-nous ça. Et
je travaille dans un restaurant à Trappes, surtout. Et après, je ne sais plus.
Et quel type de travail? Vous êtes au service
professionnel.
Et au service des clients? Vous préparez la cuisine?
Je prépare leurs commandes.
Préparer les commandes. Et ça
Commandes par voiture et sur place.
D'accord. Et c'est un travail que vous avez obtenu parce que, avant ça...
Avant, j'étais au lycée.
Une scolarité qui s'est bien passée.
Oui, trop bien passée.
Est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment elle s'est trop bien passée, cette scolarité? Est-ce que c'était dans un milieu ordinaire avec...
Non, c'était professionnel.
Un lycée professionnel?
Oui.
Mais c'était un lycée professionnel où il y avait des...
Il y a des choses géniales à l'intérieur. On m'a appris des tas de choses.
Qu'est-ce qu'on t'a appris?
Je sais repasser, je m'occupe de le ménage et de linge et de la cuisine.
Oui, et ensuite, tu as choisi la cuisine?
Oui. Je vous dirais bien que côté cuisine, j'ai des talents cachés par mes parents et par mes grands-parents. Donc, je tiens d'eux.
Tu tiens d'eux parce que tes parents aiment beaucoup faire la cuisine?
Oui, je tiens de toute ma famille complète.
D'accord.
Du coup, on peut parler, c'est un véritable choix que tu as fait.
Super choix. C'est ma vie, je voudrais bien que tu n'aies là-dedans.
Ah ben, en tout cas, ça s'entend qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, surtout, sûrement plus que d'autres personnes qu'on connaît qui travaillent et qui ont l'air moins ravis de leur travail.
Et dans le lycée professionnel où tu étais, il y avait... Des jeunes avec trisomie 21 et des jeunes sans trisomie.
Non, j'étais toute seule. Et parfois, là, des gens même moquaient de moi avant. On le sait.
Quelquefois, les jeunes se moquaient de toi?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils te disaient?
Voilà la trisomique.
Et tu leur répondais quoi?
Moi, je réponds rien. Je fais comme ça, pas là.
D'accord.
Et après, moi aussi, je moquais d'eux, comme leur couleur de peau. Eux, ils moquent de moi et moi, je moque d'eux.
Chacun. C'est, de toute façon, à l'école, je crois que c'est des moments où chacun se moque
de
l'autre.
C'est pas facile pour tout le monde. Voilà. On est dans le parcours des grands, c'est pas facile.
C'est ce que Marie-Joëlle me racontait tout à l'heure. Quand on venait pour enregistrer, elle m'a parlé de cette histoire de couleur de peau. J'ai dit, mais pourquoi la couleur de peau? Elle m'a dit, parce que c'est quelque chose qui se voit. Alors eux, ils se moquent de moi parce qu'on me voit trisomique. Alors moi,
je moque de leur couleur.
Bah oui.
On peut dire de mal des autres, on peut dire mal des autres après nous.
Et puis elle m'a dit que ça servait à rien, mais que c'était pour leur faire comprendre. Alors je sais pas si.
Ils ont vivre avec les trisomiques. Il faut pas manquer d'eux. Il faut vivre avec.
Et est-ce que vous croyez que du coup ils ont compris que...
Non, mais il faut faire attendre.
Mais je crois qu'en répétant, petit à petit, les gens comprennent. Ils comprendront.
Voilà, et puis nous, pour avoir accompagné Marie-Joëlle dans ce lycée professionnel. Et être intervenu dans les ateliers avec les jeunes, les autres jeunes du lycée, beaucoup, beaucoup de regards ont changé. Et l'accueil a été globalement très, très bienveillant. Et elle a pu même être, parce qu'elle est très douée, Marie-Joëlle, sur les tâches professionnelles.
Oui, ça c'est
elle
vrai.
A pu être soutien et support pour un certain nombre d'élèves qui présentaient d'autres types de difficultés. Voilà, et juste peut-être pour éclairer, parce que c'est compliqué pour Marie-Joëlle de refaire tout le chemin comme ça devant le micro. Marie-Joëlle a fait l'intégralité de son cursus en milieu ordinaire.
Oui,
pas forcément un mot qu'elle connaît, c'est pour ça que... Milieu ordinaire, donc elle a commencé à la maternelle,
maternelle
en étant dans
sources.
Une classe avec les autres enfants. Et puis elle est allée dans une classe spéciale, mais à l'école primaire.
Et après,
au collège, dans une classe spéciale, mais dans un collège ordinaire.
L'école maternelle, après Paul Fort, et après le collège, c'est le lycée. Le lycée, c'est le travail.
C'est le boulot. Et après le boulot, c'est quoi?
La retraite. Ouais. Mais moi, c'est encore plus longtemps la retraite.
Oui, c'est dans longtemps.
Je suis jeune, donc je peux.
Elle nous ramène à notre grand âge, tous. Bon. Et Marie-Joëlle, alors justement, cette expérience professionnelle, avant cela, la scolarité, quelle était votre implication? Bernadette Céleste nous disait tout à l'heure que vous aviez participé, et d'autres aussi, à la rédaction de ce livre.
J'ai aidé.
Et alors, quelle partie spécifiquement, quel type d'information vous avez eu envie et choisi de...
Je veux dire, j'ai raconté mon scolaire.
Et c'est-à-dire, la façon... du coup, le parcours, la façon dont vous l'avez vécu,
oui.
C'était...
De primaire, je suis au lycée, c'est tout. Et côté coup de cœur, amitié, tout et tout.
Et c'était quoi le message principal que vous aviez envie de faire passer à d'autres
Il ne faut pas moquer des autres.
Bon, c'est un beau message. Eh ben, on espère que, en tout cas...
Dans la trisomique, je sais c'est faux, mais de vrai, c'est vrai. Il faut vivre avec les trisomiques.
Ils sont là, et on vit avec. Et d'ailleurs, vous nous disiez tout à l'heure, Marc, vous parliez du diagnostic et dépistage. Et c'est vrai qu'il y a des informations vraiment techniques aussi dans le livre. Il y a beaucoup de témoignages et de vécu, mais il y a du technique. Personnellement, j'ai effectivement, ça m'a permis de recadrer un peu des notions que je n'avais pas forcément en tête. Et un chiffre peut-être ou une idée, parce que vous disiez effectivement, les gens croient qu'il n'y a plus de personnes porteuses de trisomie 21 parce que finalement, comme des fois c'est un peu dépisté. Et en fait, si, il y en a encore. Est-ce qu'on a une idée pour...
Une idée quantitative, c'est toujours très très difficile c'est parce dur, que oui. Ça bouge sans arrêt. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement de fortes confusions entre le dépistage et le diagnostic. Ce qui est effectivement obligatoire en France, c'est d'informer toutes les femmes enceintes ou tous les couples qui attendent un bébé sur les possibilités de dépistage. Possibilités qu'ils peuvent accepter ou refuser. Mais c'est obligatoire pour les médecins d'informer sur cette possibilité de dépistage. Après, le dépistage, il va effectivement permettre une évaluation, une évaluation statistique du risque pour la personne d'attendre un bébé avec trisomie 21. Alors, c'est très souvent interprété comme « je suis à risque » ou « je ne suis pas à risque », en fait, en sachant qu'il ne s'agit que d'un calcul de risque, d'un calcul statistique. On peut très bien ne pas être à risque et attendre un bébé avec trisomie 21 ou être, dans bien des cas, à risque et ne pas attendre de bébé avec trisomie 21. Alors, après... Effectivement, ce qui est prévu en France, c'est qu'il est proposé à toutes les personnes considérées comme à risque de mettre au monde un enfant avec trisomie 21, on leur propose l'étape suivante qui permet un diagnostic, c'est-à-dire de faire une amniosynthèse qui va permettre effectivement de voir le cariotype du futur bébé. Donc, c'est un ensemble de démarches. Et justement, par rapport aux idées reçues, la maman qui nous a un petit peu accompagnés dans l'écriture de cet ouvrage était une maman qui était sans arrêt confrontée. Et je n'avais pas âgée, la petite Louise, elle a 2 ans, faut pas. Qui était sans arrêt confrontée à ces confusions dans la tête de tout le monde, entre dépistage et diagnostic, un peu comme si « Ah ben, vous avez fait le choix ». Non, elle n'a pas choisi. Elle aurait pu choisir, mais elle ne l'a pas choisi. Et je me souviens d'une réflexion qu'elle me faisait un jour en disant qu'elle allait faire radiographier les poumons de Louise, qui avait alors 1 an à peine. Et la personne lui a dit « Mais vous ne le saviez pas avant ?» Elle a dit « Qu'est-ce que ça change que je le sache avant ?» par rapport à la radiographie de ses poumons. Et je crois que beaucoup de parents ne peuvent plus supporter ce type de questions qui les renvoie à une question qu'ils n'ont plus à se poser.
Et puis c'est jugeant, personne ne devrait se permettre de... Absolument. Et c'est une des choses qui est aussi appréciable dans le livre, c'est le respect de la diversité des points de vue, des choix, justement, sur ces questions-là et d'autres. Il n'y a pas de jugement de valeur, il y a des idées, des informations... Voilà, qu'on donne, et puis après, libre à chacun de faire ce qu'il en veut. Et sur tous les sujets, et je me retourne vers vous, Yves, à nouveau, sur, puisque vous avez plus particulièrement travaillé sur des thématiques affectives, de vie sexuelle, il y a ça aussi dans le livre, et ça fait partie des sujets dont il faut parler, dont on parle, et comme tout à chacun, avec les personnes aussi porteuses de trisomie.
Il faut d'autant plus en parler que on évoquait les représentations. Les représentations concernant la sexualité des personnes porteuses de trisomie ou plus généralement des personnes déficientes intellectuelles sont quand même particulièrement péjoratives. Au fond, il y a 2 grandes tendances. La première tendance, c'est du côté de la sainteté. Voilà, ce seraient des gens qui seraient en dehors d'un corps sexué, qui resteraient d'éternels enfants. Non. Hein. Et puis, il y a l'autre versant hein, qui avait été mis déjà en lumière par un collègue, j'y ai mis il y a déjà fort longtemps, qui est le côté monstrueux. Hein. Et il avait écrit un livre qui continue à avoir son intérêt, qui s'appelait « L'ange et la bête ». Hein. Et on est d'un côté ou de l'autre. Alors qu'en fait, c'est une question qui est absurde. Il n'y a pas de sexualité handicapée, c'est une crétinerie absolue. Il y a des hommes, il y a des femmes avec une sexualité qui est la sexualité de tous les hommes et de toutes les femmes, mais avec des entraves qui ne sont pas celles de tous les hommes et de toutes les femmes. Et ces entraves, elles sont nombreuses déjà dans le fait que, au fond, pour se sexualiser, il est indispensable qu'il y ait, j'allais dire, une autorisation sociale de la sexualisation. On ne devient pas sexué comme ça tout seul dans son coin. Ce n'est pas si simple que ça, hein, de se reconnaître comme homme, de se reconnaître comme femme, de reconnaître des désirs d'homme et de femme. Il y a quelque chose qui vous est ouvert dans les modèles, il y a quelque chose qui vous est offert dans le droit à être par ce qui vous entoure. Et si on est dans quelque chose dans lequel on est du côté de l'ange ou de la bête, on n'est ni l'un ni l'autre, alors ça ne va pas très bien se passer. Il y a donc des entraves, et c'est ça qu'il faut lever. Hein, avec une question qui est la question de demain, qu'on touche avec beaucoup de précautions comme ça, mais qui est celle de la parentalité. Hein. Et c'est la question, c'est la seule vraie question sur laquelle encore notre société a quelque chose à franchir d'extrêmement difficile, parce que manifestement, ça ne va pas de soi, pas pour les personnes trisomiques, pour les autres. Il y a quelques années, on avait des étudiantes qui avaient fait un très très joli travail pour un article d'une revue que je dirigeais à l'époque. Et ils avaient interviewé des jeunes femmes trisomiques. Et il y a une femme qui avait eu cette phrase admirable qui avait dit « J'ai un compagnon, nous aimerions beaucoup nous marier, mais nos parents n'y sont pas prêts. » Et je crois que tout est dit.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et toujours, autour de ces micros, Bernadette Céleste, Yves-Jeanne, Marie-Joëlle Beauclair et Marc Blin, nous parlons d'un livre sans idées reçues pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 et casser les idées reçues. Un livre qui jalonne le parcours de vie des personnes avec trisomie 21. On a commencé à le voir avec vous. Santé, travail, vie affective, on en parlait à l'instant, vie sexuelle, problème d'infantilisation des personnes avec trisomie 21. On a du mal à les voir grandir. Marie-Joëlle, vous êtes là, vous êtes encore jeune, 19 ans, mais tout de même un adulte en devenir, un adulte qui est là, bientôt 20 ans, et puis à 20 ans, au passage à l'âge adulte, c'est les problématiques des adultes que vous allez connaître, et des problématiques qui, là encore, sont abordées dans les livres, et qui sont encore moins simples, parfois, quand on est une personne avec trisomie 21. Le futur, Marie-Joëlle, vous le voyez comment, vous, dans 2 ans, il va falloir trouver un appartement, qu'est-ce qui vous anime, quels sont vos rêves pour dans ces quelques années, ou au contraire vos questions. Trouver un appartement, c'est un, par exemple.
C'est un peu difficile, trouver un appartement. Je voudrais bien aller dans un foyer à la place d'appartement.
Et en dehors de l'appartement, est-ce qu'il y a des choses qui, dans les années à venir, vous questionnent sur...
Oui, je voudrais bien continuer ma danse.
Ça va être...
C'est ma passion depuis que j'étais petite.
Et ça va être de l'ordre du possible ?
Oui.
Alors, c'est de l'ordre du possible, mais ce n'est pas le cas pour tous les sujets de la vie adulte.
Oui,
et là, je...
ça, c'est vrai. Mais dès mon rêve ne peut pas réaliser, je vais abandonner.
En fait, peut-être ce que Marie-Joëlle laisse un peu suspendu, parce qu'elle est justement dans ce moment charnière entre son parcours scolaire professionnalisant et puis la bascule que vous évoquez sur un monde adulte ou un monde de plus loin, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces questions-là pour les personnes avec déficience intellectuelle, pour les personnes avec handicap, d'une manière assez générale, puisqu'on peut dire que, même si c'est loin d'être parfait, hein, le système scolaire et professionnalisant, voilà, on travaille, on est beaucoup à travailler dessus, famille, professionnelle, personne elle-même, depuis des dizaines d'années, et on a des chemins qui se tracent, plus ou moins facile, mais qui se tracent. Par contre, et là encore, en témoignant de ma place de directeur, donc de tous les parcours que j'ai accompagnés, que nous avons accompagnés depuis 20 ans, beaucoup des jeunes adultes se retrouvent parfois dans des situations où ils ont porté fort leur projet, et puis avec un espèce de vide en face d'eux, vide en termes de structure, d'accompagnement, vide en termes de proposition du monde du travail, du monde de l'entreprise, vide en termes de représentation, encore une fois, collective, de la place des adultes handicapés dans l'espace social. Et voilà, ça peut avoir des répercussions un peu fortes sur leur parcours de vie, avec des moments de repli pour certains. Marie-Joëlle n'est pas du tout là-dedans. Elle a très envie d'aller plus loin, mais vous voyez que c'est pas par déficit, mais c'est plus par inconnu qu'elle a du mal aujourd'hui à projeter un peu plus loin, parce que c'est au carrefour de ses préoccupations, mais de ce qu'elle identifie aussi comme étant les préoccupations des professionnels qui disent, les préoccupations des parents qui peuvent être inquiets d'un devenir qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc c'est une sacrée charnière.
Comment on fait, Bernadette, pour, dans un livre comme celui que vous avez coordonné, parler de tout ça? Il y a beaucoup de vide, nous disait Marc à l'instant, beaucoup de questions sans réponse. Comment on fait pour donner des idées, et sur quelle thématique, justement, il y a eu ce sentiment d'être face à un vide et de pas trop savoir quoi indiquer?
Alors, le vide, on ne l'a peut-être pas trop dit dans l'ouvrage, mais une des choses qui, effectivement, est... présente dans l'avenir de Marie-Joëlle, c'est le changement de service d'accompagnement. Tout à l'heure, Marc faisait remarquer qu'effectivement, le CESAD Trisomie 21 des Yvelines suivait Marie-Joëlle depuis qu'elle avait 6 ans. Ça crée des liens. Ça crée des liens, une bonne connaissance entre Marie-Joëlle, les professionnels du CESAD et la famille. Et parce que le CESAD ne va que jusqu'à 20 ans, Marie-Joëlle va devoir changer de service d'accompagnement. Elle n'arrive même pas à dire le nom, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on le cite.
C'est oui,
le SAVS. Bon. Mais elle doit changer. Donc là, effectivement, on n'a peut-être pas trop insisté là-dessus. On a préféré, effectivement, ouvrir des pistes sur la vie affective et sexuelle, sur l'habitat, sur la professionnalisation. Alors, sur l'habitat, un des éléments qu'on a pu constater à Trisomie 21, c'est qu'il fallait vraiment être à l'écoute des personnes. Là, comme ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas une réponse type de correcte. Là, tout de suite, Marie-Joëlle parlait de foyer. Elle a dit qu'elle aimerait aller dans un foyer. Oui. Ça peut être pour elle un premier niveau de séparation d'avec la vie familiale, qui pourra peut-être dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, ouvrir sur autre chose. Ce qu'on essaye de voir à Trisomie 21, c'est quelles sont les orientations qui sont possibles, qui peuvent aller effectivement vers de l'habitat en autonomie, mais aussi aujourd'hui de la colocation. Faire très très attention à ne pas confondre l'autonomie et la solitude. J'étais trop souvent confronté à des ambitions de « il faut qu'il soit autonome, autonome, autonome » pour mettre la personne seule dans un appartement. J'ai envie de dire quel est le jeune de l'âge de Marie-Joëlle aujourd'hui qui accepterait de vivre seule dans un appartement. Donc je crois qu'il y a des solutions nouvelles à chercher. Il y a des choses qui sont mises en place, et puis on l'évoquait un tout petit peu tout à l'heure. Alors il y a quelque chose, je dirais, qui n'a pas été anticipé du tout au niveau de la société, c'est le vieillissement des personnes handicapées. On est confronté aujourd'hui à une augmentation très très grande de l'espérance de vie des personnes handicapées, tant mieux. Mais d'un autre côté, il y a effectivement des grandes questions à se poser sur la façon dont on va répondre à leurs besoins. Et j'ai envie de dire que pour des personnes avec trisomie 21, pendant très longtemps, c'était encore la famille qui, bien souvent, était là pour répondre. Je ne suis pas toute jeune, les personnes trisomiques les plus... Enfin, j'ai commencé à travailler avec elles il y a plus de 30 ans. À cette époque-là, les parents savaient que leur enfant disparaîtrait avant eux. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai du tout. Et ce sont des questions nouvelles et des questions qui, effectivement, interrogent beaucoup aujourd'hui les institutions. quelle piste donner. Et aujourd'hui, dans certaines institutions, ils commencent à mettre en place des clubs ou des, j'ai envie de dire, des petits groupes d'activités pour les personnes les plus vieillissantes. Mais il faut bien savoir que ce sont vraiment des questions nouvelles et auxquelles, pour le moment, on ne sait pas bien répondre.
On est très court sur ces questions. Je pense qu'on peut prendre un exemple qui est extrêmement éclairant. Dans les années 1950, l'espérance de vie d'une personne polyhandicapée est inférieure à 5 ans. Aujourd'hui, elle est supérieure à 45 ans. Ça veut dire qu'en 70 ans, l'espérance de vie a été multipliée par 10. Alors, je parle du polyhandicap, qui est une question encore plus lourde. Mais dans la situation des personnes trisomiques, ce que tu dis est juste, Bernadette, c'est-à-dire que... Et c'est une question quasiment anthropologique, c'est-à-dire que nous avons l'idée que nos enfants nous survivront. C'est une espèce de logique millénaire, multimillénaire. Ils nous prolongent. Et donc, du jour où ils naissent, nous sommes dans la pensée qu'un jour, ils nous quitteront. Et que ce que nous leur donnons comme parents, c'est pour qu'ils le vivent pour eux-mêmes. C'est toute notre pensée la plus profonde dans ce que nous devenons comme père et mère, ce que nous devenons comme parents, c'est qu'on fond pour qu'un jour ils nous quittent. Jusqu'aujourd'hui, ça a quelques années, cette chose était un impensé dans les situations de personnes avec des déficiences intellectuelles. Ils quittaient le monde avant leurs parents. Et c'est pas seulement... Ça change dans la capacité de notre société, notamment, à donner de meilleurs soins. Sait-on que jusqu'à la fin des années 60, un certain nombre de soins étaient refusés aux personnes trisomiques, des soins dentaires sophistiqués notamment. C'était pas la peine de dépenser du pognon pour ça. Voilà, alors maintenant ils sont là, mais notre société n'a absolument pas pensé un phénomène qui s'impose à elle et qui n'est pas entouré par le fait de pouvoir le penser. Et c'est extrêmement difficile. Il y a une accélération de la réalité des choses et notre pensée sociale est en retrait par rapport à des réalités sociales. C'est extrêmement difficile d'essayer de penser ces questions, mais c'est indispensable.
Finalement, ce que va nous aider à faire ce livre, et ce qui devrait être fait depuis longtemps, c'est d'aider à penser la personne porteuse de trisomie 21 comme un citoyen lambda. On n'a pas prononcé le mot qui est souvent dévoyé de citoyenneté et qui est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui, mais dans le cadre effectivement du champ du handicap, c'est une vraie question depuis 2005 et heureusement ça évolue un peu, mais voilà, il y a encore, que ce soit pour le vieillissement ou d'autres sujets, cette problématique de pas tout à fait encore les considérer comme des citoyens à part entière.
Du côté de Trisomie 21 France, vraiment, la Convention des Nations Unies, la référence à la citoyenneté, la référence aux auto-représentants, à l'autodétermination, sont vraiment des valeurs clés qu'on a développées depuis très très longtemps. Et je dirais qu'une des particularités de notre fédération, c'était ce point d'ancrage-là, hein, par rapport aux personnes.
Est-ce que peut-être pour conclure cette émission, Marie-Joëlle, tu veux nous donner aussi un avis sur ça, sur cette citoyenneté, cette façon que tu as de vivre ta vie, de la choisir, de penser qu'on te permet de la choisir? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cette discussion?
Je suis d'accord avec eux.
Pas contrariante.
Non.
Qu'est-ce que tu souhaiterais, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez, mais bon, on peut se tutoyer quand même, on est en fin d'émission, on se connaît maintenant.
Oui.
Qu'est-ce que tu souhaiterais passer comme message, justement, aux personnes, avant de se quitter au micro?
Il faut vivre avec les trisomiques, surtout.
Vivre avec...
Jamais moquer des trisomiques. Jamais.
Et ben, message entendu, je l'espère, par toutes et par tous nos auditeurs. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été au micro avec nous aujourd'hui. Je rappelle l'ouvrage coordonné par le conseil scientifique de Trisomie 21 France. Sans idées, pour en savoir plus sur les personnes avec Trisomie 21 et casser les idées reçues chez Tom Pouce. Et vous pourrez retrouver les références du livre sur le site de Vivre FM. Merci à tous les quatre.